Bonjour à tous, vous êtes sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. Aujourd'hui, pour le direct, je suis en présence de Thomas et de Lucas Mazure. Bonjour.
Bonjour.
Donc Thomas qui est un collègue, ami journaliste, étudiant journaliste, et Lucas Mazure qui est champion du monde de para-badminton. Oh, c'est le dernier titre que tu as obtenu, si je ne me trompe pas.
En 2018, il y a eu les championnats de France qui se sont déroulés, donc ouais. Que j'ai gagné sur les trois tableaux.
Voilà.
Donc, c'est le titre le plus récent en France.
Voilà, c'est donc, le titre le plus récent. Mais il y en a plein d'autres à ton actif, donc notamment tous les... En fait, c'est ce qu'on regardait avec Thomas depuis que les championnats de France de para-badminton existent. T'as tout raflé dans la catégorie
Ouais, pour l'instant,
depuis 2014.
Ça se passe bien depuis le début, depuis que ça a été créé.
Depuis que ça a été créé, ça marche plutôt bien. Du coup, est-ce que tu peux te présenter peut-être rapidement, si j'ai certainement pas tout dit, donc est-ce que tu...
Je m'appelle donc Lucas, j'ai 20 ans, je suis étudiant en gestion des entreprises, des administrations à l'IUT de Bourges. Je suis un athlète qui prépare les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Donc je pratique le badminton depuis 8 ans maintenant. Et je pense que c'est assez bien.
C'est assez bien résumé.
Voilà, résumé.
Comme ça. Du coup, avant les Jeux paralympiques de 2020, il y a plein d'autres échéances. Et il y a notamment l'Open d'Espagne qui arrive très très bientôt, où tu seras quand cette émission sera diffusée, tu seras en Espagne. D'accord. Tu décolles après-demain,
c'est ça ouais, depuis Paris-Orly.
Quels sont les joueurs qui vont nous permettre de te jauger sur cette compétition?
Y aura plusieurs joueurs asiatiques qui seront présents sur cette compétition. Donc, c'est une compétition de référence, donc c'est important pour moi d'y participer. Et c'est surtout des Indiens qui seront présents.
Oui.
Notamment celui que tu as battu en finale des championnats du monde?
Non, ce sera un de tes collègues qui est à peu près du même niveau.
D'accord.
Donc justement, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que le niveau des joueurs indiens notamment est très très fort.
Ouais, d'accord. Ils ont un très très bon niveau et du coup, toi, ça te permet de voir, de jauger par rapport à eux, c'est comme ça que ça...
C'est ça, en Asie, oui, les joueurs asiatiques en badminton sont vraiment très très forts, beaucoup plus forts que les Européens. Donc dès qu'ils se déplacent en nombre, la compétition prend tout de suite un niveau supplémentaire.
Et donc là, ils seront beaucoup à l'Open d'Espagne, il y en aura plusieurs.
Oui, il y aura plusieurs joueurs asiatiques, donc c'est pour ça que c'est important d'y aller.
D'accord. Et du coup, les objectifs à court et moyen terme après cet Open d'Espagne?
À court terme, donc c'est bien sûr aller sur les compétitions de référence que sont les Open internationaux comme les Open d'Espagne, de Dubaï. D'Irlande, de Thaïlande et du Japon. Et à la fin de la saison, en novembre 2018, il y aura les championnats d'Europe en France, à Rodez. Donc il me semble que c'est du 30 octobre au 4 novembre, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et ça sera c'est la compétition de mon calendrier la plus importante.
C'est la plus importante, même si elle n'est pas mondiale, mais européenne, c'est un marqueur.
Ouais, c'est très important de continuer à dominer la discipline en Europe comme dans le monde, mais ça sera encore plus important justement de le faire en France et de promouvoir le sport en France, qui est le para-badminton.
Ouais, aussi parce que la compétition se passe en France, ça a aussi une valeur plus importante ou pas forcément?
Si, forcément. Moi, je suis content de savoir qu'il y a une compétition en France et les championnats d'Europe, enfin, entre guillemets, à la maison, même si j'habite pas à Rodez, mais ça sera vraiment un petit plus. Enfin, il n'y aura pas de décalage horaire, il n'y aura pas de temps de transport très long. Enfin, c'est plutôt des avantages de jouer en France.
Ouais. D'accord. Donc, du coup, là, tout ce que tu nous as cité, en fait, du coup, l'Open d'Espagne, il commence la saison internationale?
C'est ça, c'est la première compétition de la saison internationale.
Comment ça se prépare la première de la saison, du coup?
On a toujours envie de faire une bonne impression la première fois, donc forcément il y a un peu d'attente et d'excitation de la part de tous les joueurs, que ce soit aussi bien en France que dans le monde entier. Ils sont vraiment très impatients, je pense, dans des coups sur les terrains. Et ma préparation, elle n'a pas forcément changé depuis les championnats du monde, c'est toujours... Le même quotidien, c'est-à-dire je m'entraîne, je vais en cours à l'IUT. Parfois, je fais de la musculation ou des séances cardio. Et c'est tout, quoi. Enfin, ça n'a rien changé pour l'instant.
D'accord. Avec une petite semaine de vacances juste avant de
C'est
commencer.
ça, ouais. En fait, je me suis fait une légère déchirure à l'ischio-jambier il y a 15 jours. Donc, on a préféré, mon staff a préféré que je me repose juste avant cette compétition parce que justement, il fallait pas rater l'entrée. Donc, c'est plutôt à la prudence et à pas me faire plus mal et essayer de prendre des informations sur les joueurs adverses.
Et là, c'est bien remis.
Bah, ça va, je me suis entraîné avant-hier, c'est pas le top du top, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour rapporter des titres.
D'accord. Du coup, comment ça se passe là, donc on parle de compétition internationale, l'Open d'Espagne. Comment ça se passe au niveau des classements et du coup, ça te donne des points pour le
Alors,
classement mondial, c'est...
oui, il y a la Fédération internationale de badminton organise ces classements mondiaux qui s'appellent des rankings. Donc, c'est des classements internationaux. Donc, en fonction de la valeur de la compétition, que ce soit un Open, un championnat d'Europe ou un championnat du monde, enfin un championnat continental ou un championnat du monde, ça aura pas du tout la même valeur. En termes de points, il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs ou peu de joueurs. Ça change considérablement la cote du tournoi en fait. Et en fonction du stade qu'on atteint durant le tournoi, que ce soit quart de finale, demi-finale ou finale, il y a un nombre de points attribués. Et après chaque compétition internationale, ce classement est mis à jour par la BWF, donc la Fédération internationale de badminton.
Et pour le moment, donc tu es au top niveau dans ta catégorie.
Oui, pour l'instant, en simple homme, ça fait 3 ans que je domine la discipline sur le classement mondial. Je suis actuellement numéro 1 mondial, donc c'est une bonne chose. Faut continuer parce que ça va être très très important pour préparer les compétitions qualificatives pour les Jeux paralympiques.
Qui sont, du coup, c'est...
Les Jeux paralympiques seront à Tokyo en 2020.
Ouais, et les compétitions
De référence,
de...
bah, elles ne devraient pas changer. Enfin, il y aura notamment l'Open du Japon qui est une étape incontournable du circuit. L'Open de Thaïlande également. L'Espagne en fait partie parce que c'est le tournoi majeur en Europe. Et après, ça reste championnat d'Europe et championnat du monde qui sont très très importants.
Donc c'est sur ces deux compétitions-là qu'il faut pas se...
Voilà,
Il
c'est
faut
ça.
garder
Les
le...
Open servent plutôt à se tester. Et par
Ouais.
exemple, avant mon titre championnat du monde, je m'étais fait un peu castagner parce que justement, en partant aux États-Unis pour un Open à Denver, je me suis fait avoir, je me suis fait piéger. Et justement, ça m'a permis, avant les championnats du monde, de pouvoir me remettre au travail et de repartir avec une envie supplémentaire de gagner ce titre.
Est-ce que c'est uniquement les Open de l'année 2020 qui vont compter ou...
Non, ça sera les Open normalement de l'année 2019 et
D'accord.
2020. Normalement.
D'accord, des 2 années.
Ouais, pour justement qu'il y ait beaucoup de points pour permettre à beaucoup de joueurs de pouvoir participer.
D'accord. Du coup, les 2 années qui vont venir, on en a parlé un petit peu, comment elles vont se passer en préparation des Jeux paralympiques
Ça va être ouais, 2 années vraiment très importantes. Pour l'instant, je ne sais pas encore où est-ce que je vais me préparer pour ces jeux. J'ai pas encore d'informations sur un futur centre d'entraînement. Donc, on va voir ça avec la Fédération française de badminton. Pour l'instant, je m'entraîne toujours au Krebs de Bourges avec Sandrine Bernard, qui est une cadre technique de la fédération, et Thierry Gauthier, qui est mon préparateur physique. Donc, on verra la suite de la préparation, comment elle se déroule et mon niveau de jeu, où il se situe en fonction du niveau français également.
T'as des envies éventuellement de peut-être te détacher du crêpes pour aller t'entraîner ailleurs?
Il y a des possibilités de s'entraîner ailleurs. Après, il faut vraiment qu'on choisisse laquelle sera la mieux. Parce que faut pas oublier, j'ai quand même gagné ce titre de champion du monde en étant entraîné au Krebs de Bourges. Et si on casse un peu, enfin si ça se déroule mal quand je pars du. Enfin si je pars du Krebs, si je suis amené à partir, ça va peut-être poser problème pour la préparation. Parce que ce sont des petits éléments vraiment très importants. Que sont la préparation et avoir un cadre qui convient. Donc on verra en moment venu à la fin de la saison, je pense.
Donc, ouais, ça c'est des changements. S'il y a des changements, c'est entre 2 saisons que ça va se passer.
Oui,
En gros.
il y aura un seul changement. Je vais pas faire
Ouais.
4 ou 5 changements sur les 2 saisons qui vont venir parce qu'elles vont être vraiment très importantes.
Ouais.
Et si je suis amené à changer, je vais rester dans la même structure pendant jusqu'au moment au jeu de Tokyo et après on verra.
D'accord. Ok. Du coup, tu es au Krebs de Bourges, donc ça te permet de gérer l'IUT et le sport de haut niveau en même temps. En termes d'organisation, dans l'emploi du temps, ça se passe comment, techniquement, quand on est sportif de très haut niveau?
Bah justement, c'est très compliqué quand à la base l'IUT le sait pas, en fait, parce qu'on a un emploi du temps classique. Et c'est là où on se dit, non, mais j'arriverai jamais à m'entraîner et à faire mes cours en même temps, parce que c'est parfois des semaines à 35 heures. Donc, grâce au CREPS, il y a une collaboration qui s'est faite avec l'IUT qui m'a permis justement de pouvoir alléger mon emploi du temps et en fait de couper ma première année en 2 ans, par exemple. On peut couper chaque année en 2 ans.
D'accord.
Ce qui est vraiment un gros bénéfice pour les athlètes, parce que l'emploi du temps est quand même assez lourd de manière globale. Donc, si on le coupe en deux, il est plus léger et donc il y a plus de temps pour s'entraîner et mieux choisir ses périodes de récupération. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette collaboration, je dirais, entre l'IUT et le CREPS.
Et pour toi, c'est aussi important de suivre des études à côté du sport de haut niveau? C'est pas quelque chose dont tu peux vivre?
Non, actuellement, je peux pas en vivre et je suis pas sûr de pouvoir en vivre plus tard. Les études, pour l'instant, elles m'intéressent dans la gestion et la finance. J'aimerais travailler plus tard dedans, donc c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est pas, je vois plutôt comme une chance justement de pouvoir poursuivre mes études, même si bien évidemment j'aimerais vivre de mon sport. Mais ça reste très compliqué dans un sport mineur en France comme le bad.
Ouais, parce que c'est ce que disait Thomas, en fait, même dans les championnats en valide, il y a très peu de joueurs qui arrivent à vivre du badminton.
En France, les meilleurs joueurs français arrivent à vivre du badminton grâce aux aides de la fédération notamment et de leurs sponsors privés.
Ouais.
Mais c'est vraiment les tout meilleurs en France et il y en a vraiment très peu. Oui.
Ouais. Ouais, d'accord. Du coup, d'ailleurs, les sponsors, c'est toi qui gères tes sponsors?
Alors, oui et non, ça dépend lesquels. Moi, je suis représenté par la société qui s'appelle Andiamo, dirigée par Richard Warmos, qui gère ma recherche de sponsors et mes recherches de partenariats. Ça dépend vraiment de quel type d'entreprise à me solliciter pour savoir si c'est moi ou si ça sera lui qui va intervenir sur le dossier. Mais oui, je garde un œil très attentif sur mes recherches et les demandes de sponsoring.
Parce que c'est quelque chose d'important pour toi de savoir, de connaître comment ça fonctionne, ou parce que c'est lié un peu à tes études et que ça te plaît de...
Justement, les deux, je trouve ça très très passionnant justement de savoir comment fonctionne le mécénat, la vie en entreprise, le sponsoring, les partenariats, c'est vraiment très important. Et oui, en soi, ça me donne forcément des informations pour les cours, enfin, c'est un peu lié, donc forcément ça m'intéresse encore plus. Donc au final, je pense qu'il y a un grand intérêt à ce que je m'y intéresse, donc forcément, c'est avec plaisir que je le fais.
Ouais, d'accord. Je vous propose que tout de suite on fasse une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après sur La Rage, sur le 99.1 ou sur www.la-rage.fr. On écoute tout de suite San de Aurel San. A tout de suite sur La Rage.
Je suis dans le premier Mario. À chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre, mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU, où n'importe qui donne son mauvais point de vue, où la télé passe des infos déjà vues, pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer. J'essaye de fitter, rester d'actualité, sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk, quand tu crois que t'es Bart mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale, je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette mes vieux démons, roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde, vigilant à chaque seconde. Si je le laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. Je pensais me lever un matin, être un homme, sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne, fiable, avoir construit quelque chose de stable. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable, marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires, sans même savoir savourer la victoire. Mes nuits sont blanches, mes idées noires. C'est comme chaque fois que j'arrêtais de boire et que les journées sont plus que des gueules de bois. Pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. J'essaie d'être droit, de faire des choix, de faire plaisir à tout le monde à la fois. La famille, les amis de la famille, des amis, des amis. Divertir un public qui me connaît pas, peu importe ce qu'il croit. Je suis toujours à deux doigts du craquage, à deux doigts du pétage de câble. T'étonnes pas si tu me vois marcher dans la rue en pyjama. Mais je craquerai pas, je craquerai pas, je craquerai pas. Je craquerai pas. Je pourrais plus m'enfuir, mon frère a deux enfants, je veux les voir grandir. Je veux plus faire semblant, plus jamais mentir. Je suis déjà fou, autant rester dans le délire. Hein, je serai celui qui fait une blague avant de mourir. Celui qui part dans un fou rire. Hein, je veux laisser mon propre souvenir. Pas faire du sou, le mec à la mode en pourri. Hein, les temps changent, les gens changent. Mais je m'ennuie vite, j'aime le changement. J'étais déjà différent, je le serai jusqu'à la nuit des temps. Vie rapide, mec lent. Avant j'avais peur d'être pas normal. Quand je vois les gens normaux, je suis fier d'être pas normal. Le monde est vénéneux. Mon cerveau fait des nœuds, je me fais à l'idée d'aller jamais mieux. Je voulais écrire pour les haineux, mais je vais faire mieux, écrire pour ceux qui m'aiment eux. C'est toujours pour ma ville quand je mets le feu. J'ai tout reste de ma vie pour être vieux. Où sont passés les stars de ma jeunesse? Morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes. Je veux jamais faire pareil. Retour vers le futur, je veux pas rater le troisième. Je veux faire des chansons d'amour homicide qui poussent un célibataire au suicide. J'aimais le rap avant que la hype gentrifie. Vodka Doliprane, maintenant j'anticipe. J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valait pas la peine. J'ai jamais dit je t'aime à ma mère. Je veux plus faire marche arrière. J'arrive à peine à la fin du début de ma carrière. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses louches. J'ai fait des rappeurs, j'ai fait des fausses couches. Quand je disais c'est nous le futur, je parlais de maintenant. Je parlais de cet instant, le futur c'est maintenant. J'ai tous les flots, je serai jamais sec. Applayer scred, je vais jamais perdre. On a commencé dans une salle des fêtes. On va devenir ce qu'on voulait être. Merde, j'arrive en gun kata. Jeune bâtard, meurs voilà. Saitama, punch fatal. J'écris chaque phrase comme si Michael pouvez voir ça, ça serait pas la médiocrité m'avoir. J'ai vu assez de bâtards tristes pour croire au karma. Aurel San par 3, le dernier volet de la saga. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. La fête est finie.
Et vous êtes de retour sur La Rage, sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. C'était San, de Aurel San. Et on est toujours avec Thomas et Lucas Mazure. Du coup, une question que je n'ai pas encore posée. Qu'est-ce qui t'a donné en fait envie, au tout départ, de commencer dans le badminton?
Alors, pour resituer, moi j'ai commencé le sport à 6 ans. Et je faisais comme beaucoup de jeunes, je pense, j'ai fait du foot. Ouais. Et j'adore toujours le foot aujourd'hui, ce n'est pas là. Mais un sport collectif, je trouve ça assez difficile en fait, intérieurement à gérer. Et je pense qu'un sport individuel justement m'a permis de m'épanouir plus. Et j'ai découvert le bad en fait au collège, en cours de sport. Enfin, j'ai découvert même en école primaire, mais ça n'avait pas la même valeur. Mais au collège, je me suis investi plus en essayant l'UNSS notamment, avec les championnats départementaux et tout. Et ça m'a vachement plu. Et donc après je suis allé en club directement vraiment peut-être 2 semaines plus tard.
Ok, ouais.
Et à partir de là tout était lancé. Enfin je me suis investi à fond dedans et j'adorais ça. Et finalement mes potes en faisaient aussi, donc je retrouvais mes potes et puis on s'éclatait. Et c'était enfin ça me permettait de m'apaiser un petit peu parce que j'étais très colérique quand j'étais petit.
Ouais.
Et ça, ça avait lieu où?
Ça avait lieu à Colomiers, à côté de Toulouse. Donc là où j'ai commencé le foot. Et je supporte toujours le club de Toulouse.
Même si, le TFC.
Ouais,
les le violets. TFC, ah oui.
Mais ouais. Et donc, c'est là que j'ai commencé donc, à Toulouse le bad, à l'âge de 11-12 ans.
11-12 ans où tu as commencé du coup en club et assez vite, ça t'a.
Ouais, enfin, moi je suis un compétiteur, j'ai toujours détesté perdre, même quand j'étais petit, que ce soit n'importe quel jeu, n'importe quel sport. Et du coup, je me suis donné à fond dedans. Et je m'amusais bien. Et après, on est venu me parler du para. Le para, on s'est posé la question avec ma famille, est-ce que ça valait le coup? Et donc j'ai décidé justement de tenter ma chance et ça a payé. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'était une bonne idée de continuer là-dedans, je pense.
Et du coup, tu as une famille de grands sportifs? Tu as deux frères qui font aussi du sport au niveau?
Ma famille, oui, mais il y en avait un des deux de mes frères, oui. Alors déjà, ma grand-mère et ma mère ont fait du basket à haut niveau, en première et deuxième division.
Ouais.
Mon père était pongiste, il était dans le top 15 français.
Ok.
Et donc, on a tous fait du sport quand on était petits, mes frères et moi, tout de suite. Et je pense que ça a été assez important dans notre éducation, le sport, parce que je pense que ça permet de structurer plus rapidement, enfin, des enfants, mais plus tard même des adultes, d'avoir des valeurs de respect, de dépassement de soi, c'est vraiment très important. Et du coup, oui, j'ai un de mes deux frères, enfin, j'ai deux grands frères. Le plus vieux fait du rugby par loisir, par plaisir. Et donc le plus proche de moi joue au rugby au club de Chartres, qui est en 3e, 4e division. J'ai un peu baigné dans le sport, hein.
Ouais.
J'ai eu cette chance.
Depuis assez longtemps. Et du coup, dans le sport de raquette, un peu par ton père. Et on en parlait du coup pendant la pause de musique. En France, il y a une culture du bad qui est assez. Enfin, du coup, toi, tu dis c'est venu assez tard au collège, en fait, où tu découvres un peu le badminton. Alors que pour tes adversaires en Asie, notamment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la culture populaire.
Ah bah complètement. Enfin, pour moi, le badminton en Asie, c'est l'équivalent du foot ici. Tout le monde en Asie, que ce soit en Indonésie, Malaisie, Inde, Chine, joue au badminton, et même les stars valides en badminton sont limite des demi-dieux là-bas. Donc c'est sûr que c'est difficile de comparer, c'est vraiment deux cultures différentes, hein, l'Europe et l'Asie, mais on voit que oui, en soi, les techniques traditionnelles d'entraînement asiatique sont vraiment bien, bien mieux que les techniques en Europe. Mais oui, justement, on ne peut pas les comparer, parce que en Asie, n'importe qui peut jouer au badminton, que ce soit derrière chez lui, dans son champ, peu importe où, alors qu'en France, il faut vraiment que ce soit dans un gymnase. À part pour les loisirs qui veulent taper le volant dans le jardin avec papa-maman. Donc voilà.
Comment toi tu te mets au niveau de ces joueurs asiatiques qui progressent sans cesse, qui sont de plus en plus nombreux, alors qu'en Europe et en particulier en France, il n'y a pas un vivier aussi développé?
Très bonne question. Bah justement, j'utilise beaucoup des sparring partners valides en fait, pour conserver mon niveau de jeu. Il y a un vivier de joueurs en France en valide qui est vraiment très important, et ça me permet justement de me confronter à beaucoup de jeux différents, et donc ils ont aucune pitié, c'est ce qui me fait ce qui me donne vachement envie, et ça me permet justement de conserver mon niveau et même de m'améliorer, parce qu'il y a un impact physique qui est encore plus important qu'en para. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est de l'opposition avec les valides, c'est l'entraînement avec les valides, et c'est l'entraînement comme les valides surtout, c'est ça la préparation.
Tu participes notamment au championnat de France par équipe avec les valides?
Oui, je participe avec mon club de Salbris dans le Loir-et-Cher, qui sont en 3e division, en National 2, et on devrait se maintenir en National 2.
D'accord. Et du coup, techniquement, là, les entraînements en ce moment, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément sur quoi tu dois travailler pour améliorer le jeu, que ce soit en technique, en stratégie ou...
Techniquement, mon jeu au filet est encore... correct, mais il pourrait être si j'arrive vraiment à m'améliorer dessus, ça serait vraiment une bonne chose pour l'avenir, parce que le jeu, enfin le badminton, les gens voient souvent ça comme faut faire tomber le volant de l'autre côté du terrain de l'adversaire, et pour arriver là, faut savoir jouer au filet, parce que sinon c'est assez compliqué.
Ça permet quoi, le jeu au filet?
Le jeu au filet ça permet de faire avancer son adversaire pour parfois être capable de lui faire mal en fait au niveau des appuis, utiliser la fixation, enfin utiliser des fixations et des feintes en fait pour donner des mauvaises infos ou des infos pas complètement vraies pour justement déstabiliser l'adversaire. Et les gens aujourd'hui, enfin les gens, le haut niveau dans le badminton, ça c'est quand on regarde un match, c'est souvent un combat en fait. C'est un peu, moi je vois plutôt ça comme une partie d'échecs. Il faut mettre en échec son adversaire, en difficulté, et il faut le bloquer. Et si vous arrivez à bloquer votre adversaire, justement, là, c'est vraiment un bon point. Donc je pense que le jeu au filet est très important. Et accélérer un peu plus mes attaques. C'est les gros points pour l'instant à bosser.
Et quand tes adversaires te mettent en échec, ils jouent sur quoi?
Alors je sais pas pourquoi, mais je déteste jouer contre des adversaires qui jouent lentement. C'est-à-dire qu'ils cassent beaucoup le jeu avec des grandes cloches ou des amortis bien lents qui font bien mal aux jambes. Ça, c'est un jeu que j'apprécie pas. Enfin, j'apprécie pas trop de jouer contre ce genre de jeu. Après, bon, c'est mon avis personnel, mais c'est assez dur justement de tout le temps devoir pousser très très fort sur les jambes pour pas être en retard, alors que enfin, c'est un volant tout mou, tout lent. Ça, j'ai vachement de mal. Après, j'ai beaucoup de mal aussi à jouer contre les gauchers. Et l'Indien que j'ai battu en finale de championnat du monde était gaucher.
Alors que toi-même, tu es gaucher.
Enfin, gaucher. Oui, moi, je suis gaucher aussi. Et je sais pas pourquoi, mais c'est en fait des trajectoires complètement différentes. Alors, enfin, des trajectoires oui et non, enfin, différentes oui et non. Mais c'est un jeu. Enfin, en fait, je dois penser à l'envers. Si je joue contre un gaucher, alors que contre un droitier, bah, je suis habitué à jouer contre un droitier, donc je sais ce que j'ai à faire, je sais où est-ce que je dois amener, enfin, essayer de me mettre en difficulté. Alors qu'un gaucher, bah, c'est tout l'inverse. Et ça, c'est vraiment, je m'arrache beaucoup de cheveux parfois là-dessus.
Mais du coup, c'est pareil pour toi quand tu joues contre, vu que t'es gaucher aussi, oui, voilà. Ça doit être c'est aussi un, une ça, difficulté ouais. pour les c'est personnes un, qui sont en face de toi.
C'est un gros avantage pour moi d'être gaucher dans le badminton parce qu'il y a beaucoup de droitiers.
D'accord. Ouais, c'est marrant, j'aurais jamais imaginé que bah, pourtant ça paraît assez logique que gaucher ou droitier, ben, vu qu'il y a quand même plus de droitiers, je sais pas pourquoi.
Aussi bien droitier et gaucher sont habitués à jouer des droitiers.
Ouais, c'est ça.
En termes de proportion de joueurs.
Ouais. Et un facteur clé aussi qui m'arrange beaucoup, c'est ma taille. Ça me permet d'intercepter beaucoup de volants.
Alors, parce que pour les auditeurs qui ne te voient pas, tu es plutôt grand.
Ouais, je mesure 1m93, donc et je suis assez fin, enfin, je ne suis pas très très gros. Donc, j'intercepte assez facilement les volants quand mon adversaire, par exemple, me fait des lobes tendus ou des dégagements assez tendus.
Donc, qui font que le volant arrive au fond du terrain. J'essaye des trucs.
En fait, c'est
demande une traduction de la part de Maïva.
Une frappe main basse qui est justement assez tendue. Bon, bien sûr, enfin, il y a une trajectoire quand même assez importante, mais justement pas assez pour passer au-dessus de moi. Et du coup, avec une grosse poussée sur mes jambes, je suis capable d'intercepter à droite, à gauche assez facilement. Et ça, c'est un gros point clé.
Parce que du coup, les joueurs de bad sont souvent plutôt plus petits.
Enfin... ouais, en Asie notamment, les joueurs asiatiques sont petits, mais c'est des mobilettes, ils courent partout. Et donc, pour mettre le volant au sol, faut vraiment attendre le bon moment, attendre la faille. Et c'est vraiment impressionnant.
La stratégie, comment ça se passe? Tu disais tout à l'heure que c'est beaucoup un jeu. Enfin, comme un. Toi, tu compares ça à un jeu d'échecs. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses par cœur une stratégie que tu mènes de bout en bout ou que c'est forcément une stratégie que tu adaptes en fonction du jeu qui est en train de se dérouler?
Alors en fait, en fonction de chaque joueur, on a des informations, point fort, point faible, gaucher, droitier, grand, petit, mobilette entre guillemets ou pas mobilette, donc ça dépend vraiment de l'adversaire que j'ai en face de moi et aussi du match, des informations que je vais avoir pendant le match. Parce que ce qui est très important également, c'est en badminton, c'est les conseils des coachs. Quand on joue un match, on a le droit aux interventions des coachs à 11 et à la fin de chaque set.
Donc quand l'un des joueurs atteint 11 points,
ouais, il y a un intervalle pour se reposer entre guillemets. Et c'est là où on a quelques informations supplémentaires sur est-ce que je fais la bonne tactique ou pas. Est-ce que il a changé certaines choses, parce que il y a le fait de toujours s'entraîner, il y a des changements considérables à chaque fois. Sur chaque compétition, on remarque des nouvelles choses, on enlève des nouvelles choses. Et du coup, en fonction de chaque adversaire, il y a une stratégie à mettre en place et on l'adapte et on l'affine pendant le match, au fur et à mesure du match.
Donc avec le coach qui permet de donner un regard extérieur.
C'est ça, et c'est vraiment très important ce regard extérieur, parce que justement depuis le terrain, on n'a pas forcément ce même regard et on voit pas forcément les mêmes choses.
D'accord. Donc toi en déplacement, c'est Sandrine.
Sandrine Bernard.
Sandrine Bernard qui se déplace avec toi sur toutes les compétitions du coup.
Toutes compétitions internationales.
D'accord. Ok. Vas-y.
Non, j'allais dire qui dit para-badminton dit badminton pratiqué par des sportifs en situation de handicap.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux préciser quel handicap tu as et dans quelle catégorie tu concours?
Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de préciser, j'ai un handicap qui est assez léger. Finalement, en fait, quand j'étais petit, à l'âge de 3 ans, j'ai fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et comme séquelle, j'ai eu une cheville légèrement déformée et je boite un petit peu. En soi, c'est pas grand-chose. Je peux courir comme quelqu'un de à peu près normal. Juste, j'ai un contrôle des doigts de pied, par exemple, qui est parfois difficile sur mon pied droit. Et forcément, la musculature de ma jambe droite est un peu moins importante que celle de ma jambe gauche. Parce que ma jambe gauche est aussi ma jambe d'appui. C'était autour du handicap. Et donc, en para-badminton, il y a 6 catégories de handicap. 2 catégories pour les gens en fauteuil. 2 catégories pour les jambes, donc une catégorie handicap léger dans laquelle je suis, une catégorie handicap lourd. Il y a une catégorie pour les membres supérieurs, donc ça, on va retrouver par exemple des moignons au niveau des bras par exemple, ou un bras manquant ou une main atrophiée. Et la dernière catégorie, c'est les personnes de petite taille. Et je recommande sincèrement à tout le monde d'aller voir un match sur internet, sur YouTube, de personnes de petite taille. Vous tapez para badminton match SS6.
C'est le nom de la catégorie personne petite.
Et là, vous allez voir des matchs de personnes de petite taille monstrueux, parce qu'il y a peu de déchets, ça plonge dans tous les sens. Le point dure et le volant il touche pas le sol. Et ça, c'est vraiment le plus spectaculaire badminton que j'ai jamais vu. Donc je vous conseille d'aller voir ça.
D'autant que le filet reste.
Filet est à la même hauteur, le terrain est à la même hauteur. Après. En fonction des autres catégories, juste le terrain peut se rétrécir et passer sur demi-terrain ou sans l'avance, ça dépend vraiment. Mais le filet restera toujours à la même hauteur.
Ça doit être super. Enfin, ouais. Pour eux, ils doivent être des sacrés mobilettes pour.
Les personnes de petite taille, c'est vraiment exceptionnel à voir. Ouais. Sincèrement, ils ont une musculature déjà qui est impressionnante et une technique qui est vraiment déconcertante quand on voit. La pureté des gestes, c'est impressionnant.
Est-ce qu'il faut compenser par plus de techniques, du coup,
forcément, en fait, ça sera forcément un avantage d'avoir un bagage technique plus important. Ça permettra de mettre en difficulté plus facilement l'adversaire. Donc oui, ça, c'est un plus.
Et du coup, tu conseilles d'aller voir ça sur Internet. Est-ce que c'est difficile de trouver des rediffusions de matchs de para-badminton?
Alors, je trouve que c'est en constante évolution et ça s'améliore d'année en année. On voit de plus en plus de matchs apparaître, notamment sur YouTube. J'en ai encore trouvé un me concernant. Je savais pas que le match était filmé, mais j'ai trouvé le lien sur YouTube et c'est très intéressant de revoir. Enfin, de voir qu'il y a quand même une diffusion sur YouTube, par exemple, où on peut trouver des matchs. Après, moi, j'ai mes vidéos de mes matchs et ça, je les garde pour moi. Pour faire un travail tactique et technique dessus, c'est très important. Mais oui, on voit de plus en plus des diffusions en direct, par exemple sur Facebook, de matchs, de joueurs qui diffusent leurs matchs. On voit ce genre de choses arriver.
Et vas-y Thomas, pardon.
Non, une visibilité qui est croissante, tu le constates, ne serait-ce aussi par les distinctions. Maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps existent les distinctions à la fois chez les valides et chez les paras. C'est assez récent, ça.
Oui, c'est sûr qu'il y a une augmentation des distinctions chez les paras, parce que chez les paras, il y a du résultat. C'est surtout pour ça, et c'est vachement. Enfin, on est très content justement qu'il y ait de plus en plus de distinctions pour le para. On aimerait qu'il y en ait encore plus de la part de la Fédération française de badminton, qui n'organise pour le moment pas de remise de récompense, que ça soit en valide ou en para. Pour, par exemple, on aurait bien voulu qu'ils désignent un athlète de l'année. En France, par exemple, pour le bad ou pour le parabad, ça aurait pu être médiatiquement un peu plus intéressant. Je pense qu'ils sont en train de bosser dessus, je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais la médiatisation, oui, est également de plus en plus croissante. Je regarde en arrière, mais par exemple, il y a encore 6 mois, France 3 me demandait de pouvoir me suivre une journée au Crêpes de Bourges, par exemple, ou TV Tour. Divers médias s'intéressent de plus en plus au parabad et au bad en général. Et ça, c'est très bon pour le sport.
D'accord.
C'est du positif. En parlant du coup de sport parasport, ça veut rien dire.
Parasport, si.
Parasport. Y a les Jeux paralympiques d'hiver qui vont débuter très rapidement. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis?
Oui, je suis. J'ai notamment quelques amis comme Arthur Bauchet ou Marie Bauchet qui vont. Concourir, donc je leur souhaite forcément le plus de médailles possible à tous les athlètes français c'est vraiment une belle compétition. Je leur souhaite de profiter, même si j'ai pas encore fait de jeu. Je sais qu'on m'a raconté que les jeux étaient vraiment exceptionnels à vivre et j'espère qu'ils seront au rendez-vous, mais je suis tout cœur avec eux.
Marie Bauchet, porte-drapeau, on a vu quadruple médaillé d'or à Sochi.
Oui.
Quadruple médaillé d'or, c'est le cas.
Ouais, ça, c'est vraiment magnifique de voir que les athlètes français réussissent à performer à l'international et notamment sur les compétitions aussi importantes que les Jeux paralympiques.
Est-ce que tu as l'impression que la diffusion, elle évolue aussi au niveau des Jeux paralympiques que...
Ah oui, complètement. J'ai l'impression que la diffusion, elle est en augmentation constante. Et ça, c'est vraiment un plus pour tous les athlètes paralympiques. Et c'est vraiment très important. Et on est vraiment très content que France Télévisions, par exemple... diffuse de plus en plus les Jeux paralympiques. Bien sûr, ils diffusent pas autant que les Jeux olympiques, on en est conscient, parce que il y a forcément le public parfois répond un peu moins présent, mais c'est vraiment très satisfaisant de voir qu'il y a de plus en plus de médias qui s'y intéressent.
Si on veut mettre les pieds dans le plat, pourquoi le public ne répond pas présent devant les Jeux paralympiques? C'est une question de, ils trouvent ça moins spectaculaire?
Je sais pas vraiment pourquoi les gens ne s'y intéressent pas, parce qu'au final on voit vraiment le dépassement de soi à l'état le plus brut, je trouve, le plus fort, et je trouve ça assez dommage justement qu'il n'y ait pas un public plus intéressé dessus. C'est en train d'évoluer et les mentalités sont en train de changer, mais c'est forcément des questions qui vont rester sans réponse assez longtemps. Ça me fait penser également quand on voit que dans le métro parisien il n'y a pas d'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple. Ça, c'est un problème vraiment très très grave, et faut vraiment que la RATP se secoue là-dessus pour mettre à jour ses services, par exemple pour les personnes en fauteuil roulant.
C'est la capitale du monde, où je crois, où il y a le moins d'accessibilité pour les personnes handicapées.
À Paris?
Oui, ouais, moins qu'à Londres, moins qu'à Madrid.
C'est pour ça que les Jeux de Paris vont, entre guillemets, accélérer cette sécurisation, par exemple, des lieux importants et des transports en commun notamment, parce que on le voit bien quand on va à Paris, c'est des marches, c'est des couloirs extrêmement longs et on s'en sort jamais. Enfin, en fauteuil roulant, c'est insupportable. Il doit y avoir deux ou trois stations aux normes pour accueillir des personnes en situation de handicap. C'est pas normal.
Ce qui est inacceptable. Enfin, oui, tu ne peux pas s'il y a trois stations sur
impressionnant. Donc on espère forcément que les Jeux de Paris vont accélérer vraiment cette adaptation.
Alors tu disais aussi pendant la pause, toi qui as pu voyager en Asie, qui a pu te déplacer en Asie, etc., tu constates une accessibilité plus facile pour les personnes handicapées?
Oui, je vois en Asie, oui, c'est sûr que bon, le niveau de vie n'est pas le même et la culture n'est pas la même, mais oui, il y a des évolutions majeures en Asie et une accessibilité plus marquante que en France notamment, parce qu'en France on a du mal avec ce mot handicap, alors que ça pourrait arriver à n'importe qui à n'importe quel moment de se retrouver en situation de handicap, et ça arrive à de plus en plus de gens, et les gens se rendent compte après leur accident que bah oui, il y a quand même une vie avec le handicap, et on peut avancer dans la vie avec le handicap. Et en Asie, ils ont compris ça, je pense, très tôt, et l'accessibilité est vraiment impressionnante là-bas.
Donc on a encore du travail à faire, et on espère peut-être que ouais, les Jeux de Paris vont accélérer
sûr,
ça en dehors de la capitale, parce que certainement dans la capitale ça va bouger plein de choses, mais ça serait bien que ça se déploie sur le territoire national aussi, parce que du coup il y a, j'imagine, plein d'endroits qui sont pas faits. Par exemple dans le studio, c'est pas, j'y ai pensé il y a quelques jours, de me dire mais en fait là le studio, je suis aux normes de rien du tout, c'est 4 marches pour rentrer, et même si c'est
pas de rampe,
il y a rien du tout. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un petit bout de musique, et puis on se retrouve après. Donc on va écouter Trainwreck de Banks. À tout de suite sur La Rage. They told me you were never gonna let me get away. And if you took me fishing, you would never give me bait. I had to get away, I had to get away. Hey, hey, you try to compensate. I'm thinking what you want, brain, I should decapitate. You show me any letters, little shit, I confiscate. You put them miles away, and I had to get away.
tried so hard to get a stupid deaf ears to hear that I become illiterate. I become dumb. Yeah, yeah, yeah. When I come through, you go dark blue, and I save you from your darker daddy's bone to take care of you. Oh, I thought so. Maybe it was just a phase. Triumphing, and I'm chugging along the train, and I'm headed the wrong way, and I'm a train wreck. And my heart goes beep 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 to the music of this sad same song. It's quite depressing. There's no fixing to the problem when you're talking to an idiot.
Vous êtes de retour sur La Rage, sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. Ça n'a pas bougé, je suis toujours avec Lucas Mazure et avec Thomas. Et on est encore là pour une bonne quinzaine de minutes, à peu près, quelque chose comme ça. Donc on voulait parler des championnats du monde en Suisse.
Championnats du monde en Suisse, tout à fait, oui, en 2019, les prochains championnats du monde. C'est une première, les valides et les paras vont concourir en même temps dans les mêmes locaux, vont bénéficier normalement de la même diffusion, on dit normalement. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? C'est une avancée.
Ah bah là, c'est une annonce exceptionnelle qui a été faite par la Fédération internationale. Le projet suisse a vraiment convaincu les jurys et pour nous, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir, juste avant les Jeux paralympiques de Tokyo, participer à une compétition avec les valides. C'est vraiment une première historique et une première mondiale de faire ce type de compétition. Et ça va amener, on l'espère, un public nombreux pour le para comme pour le valide.
Si on parle en termes logistiques, concrètement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de terrains et seront lancés.
Il y aura beaucoup de terrains,
j'imagine.
Sinon, ça va être compliqué.
C'est-à-dire qu'ils vont lancer le premier tour du double mixte valide avec le simple dame de la catégorie petite taille, etc.
Par exemple,
etc.
Ouais, ça peut être ça, complètement. Ouais. Il va y avoir, je l'espère pour eux, en tout cas, une grande salle et une organisation bien rodée.
Pour, par la suite, si l'événement porte ses fruits et est satisfaisant, généraliser ça à tous les événements.
Ça va être très 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 difficile, mais ça peut être un projet concret, oui. Et on l'espère que ce projet sera renouvelé, c'est sûr, parce que ça va être exceptionnel.
Difficile, ouais. Tu penses en termes de logistique ou en termes de mentalité
D'organisation, je pense déjà, oui. De logistique, ça va être difficile à chaque fois de faire deux compétitions au même endroit, au même moment, dans une salle énorme. Enfin, vraiment, je pense qu'il va y avoir au moins 10 ou 15 terrains. Alors que par exemple, pour un championnat du monde valide, c'est 4 terrains.
Ouais, donc
ça va être assez long.
Multiplié par 3.
Complètement. La superficie, donc ça va être assez dur.
Donc ouais, quelque chose d'assez énorme qui se met en place. Mais c'est un, comme tu disais, c'est vraiment un beau projet qu'ils ont lancé pour ces championnats du monde. C'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment chouette qu'ils fassent ça. Et que, ouais, en effet, ça permet aussi à tous les spectateurs de profiter des deux championnats en un, du coup.
Et puis de voir en temps réel qu'on a autant de plaisir à regarder les valides et les parajouer.
Ouais,
tout ça, tout bêtement, en fait.
C'est ça, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça sera en août, du 21 au 26 août. Et que, du coup, moi, ça m'arrange, puisque ça sera un déplacement qui sera court en Suisse. Pour rappel, les derniers championnats du monde étaient en Corée du Sud.
À Ulsan.
Donc à Ulsan, tout à fait. Et ça, c'était bien. Un bon 14 heures de vol. Donc ça commençait à faire long dans une journée. Et non, la Suisse, c'est juste à côté. Franchement, c'est génial. On est très contents. Tous les joueurs en para sont contents de cette double compétition qui va permettre de faire une grosse promotion du para.
D'autant en Europe, puisque tu disais que la culture du para était plus développée en Asie qu'en Europe, ça serait une façon de...
Ah oui, il n'y a pas de niveau. Quand on voit les compétitions en para et les compétitions en Europe...
L'engouement est totalement différent.
C'est sûr qu'en Asie, c'est un tout autre niveau d'organisation et de public. C'est impressionnant.
C'était agréable, du coup, en Corée du Sud, d'avoir un public qui était beaucoup plus présent qu'en Europe, en fait, tout simplement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment... Il y a beaucoup plus d'ambiance et... beaucoup de joueurs sont très contents justement qu'en Asie le public est là, en fait, le public soit là. C'est vraiment très plaisant et c'est satisfaisant de savoir que on est reconnu en Asie, en Europe beaucoup moins. On a parfois joué, par exemple, je me souviens d'un tournoi en Irlande, il n'y avait pas de quoi s'asseoir dans une salle. Enfin, c'est quand même assez dérangeant.
Oui.
Donc faudrait que le jury d'organisation pour les compétitions soit un peu plus strict en Europe. Enfin, en tout cas, beaucoup de joueurs aimeraient ça.
Et c'est facile de faire entendre ça en tant que joueur, de faire remonter des choses comme ça ?
Alors, facile, oui et non. On a une commission, il y a une commission des joueurs qui est portée par 4 joueurs, dont un Français. Donc, pour la France, qui est plutôt bien placée en termes politiques pour faire entendre ses voix, c'est assez facile, oui, de faire entendre ses besoins et ses commentaires, ses retours, parce qu'il y a quand même des bons retours aussi. En Asie, on est vraiment sincèrement très content d'aller jouer en Asie, même si on fait 10 à 12 heures de vol, que d'aller jouer en Europe où vraiment là on sait que le sérieux sera pas toujours là, l'organisation va laisser à désirer, on verra. Donc oui, on peut faire entendre nos voix.
Donc c'est déjà bien de pouvoir d'avoir la possibilité de faire des retours. Et du coup, dans l'autre sens, donc, vous pouvez faire remonter des choses, mais il y a aussi des choses qui peuvent vous tomber dessus un peu. On en parlait pendant la pause, notamment les changements de catégorie qui peuvent avoir lieu comme ça. Parce que c'est
Les déclassements de catégorie, oui.
Donc c'est tous les ans, vous êtes réévalué pour...
Non, je crois pas, il me semble pas, mais il y a toujours, sur chaque compétition, il y a des... classificateurs qui regardent les matchs et qui regardent les athlètes pour évaluer leur jugement. Et ça, c'est très important parce que ça arrive souvent qu'il y ait des problèmes de catégorie, notamment des joueurs en fauteuil qui possèdent un équilibre de tronc, en fait. Et ça, c'est ce qui démarque les deux catégories fauteuil. Donc il y en a qui jouent un peu à cache-cache avec les classificateurs. Donc ça, c'est un des gros problèmes qu'on a actuellement et qu'il faudra éclaircir.
Et donc c'est à chaque compétition.
À chaque compétition, on passe pas une visite, mais les classificateurs sont là et ils regardent les matchs. Donc c'est après à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais non, il y a pas de pression particulière. Mais s'il y en a qui trichent, c'est sûr que il sera pointé du doigt.
D'accord. Ouais.
Peut-être pour reclarifier la chose, tu l'avais évoqué en début. Comment s'appellent ces catégories? À quelle lettre correspond quel handicap, etc.
Alors il y a 6 catégories: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 et SS6. Donc WH1, c'est fauteuil, donc catégorie fauteuil sans abdominaux, en fait, c'est donc sans équilibre du tronc.
D'accord.
WH2, c'est avec équilibre du tronc, enfin, il me semble, je suis pas sûr à 200%, mais je crois, c'est soit l'un soit l'autre.
D'accord.
SL3, handicap lourd à la jambe. Donc là, on va pouvoir retrouver des gens qui ont été amputés d'une jambe, des gens qui ont une jambe beaucoup plus fine que l'autre, par exemple. SL4, donc handicap léger à la jambe. Donc ça peut être une cheville déformée, ça peut être un boitillement assez léger.
La catégorie dans laquelle tu
évolues, concours, ouais, actuellement. La catégorie SU5, donc ça sera tout ce qui est en haut du corps, donc ça sera plutôt bras, par exemple, touché. Et donc la catégorie SS6 pour les personnes de petite taille.
D'accord.
D'accord. Et donc c'est possible de concourir dans plusieurs catégories, parce que c'est ce qui t'est arrivé en double, c'est ça ?
Oui, en double homme, j'ai décidé de partir sur un projet avec Meryl Lockett, qui est un joueur SU5, et donc je me surclasse en double homme pour jouer en SU5. C'est un projet pour les championnats d'Europe, pour essayer un nouveau challenge qui me plaît et qui me donne envie de continuer. C'est un projet qui va être dur et qui va être long. Donc on va surtout jouer en Europe ensemble, enfin sur les compétitions européennes ensemble. C'est possible donc oui de surclasser. Par exemple, donc je ne participe pas au double homme SL3 et SL4, mais donc je participe bien au double homme SU5. Et c'est donc un nouveau projet, sachant que j'ai déjà été champion d'Europe en double homme SL3 et SL4. C'est quelque chose qui m'intéresse d'essayer de gagner le titre en SU5.
Et donc c'est un choix de ne pas concourir dans les deux catégories, ou est-ce que c'est juste...
Ah, on n'a pas le droit de concourir
dans le...
Ouais, c'est interdit. C'est soit l'un soit l'autre pour le double homme. Enfin, pour toutes les catégories d'ailleurs.
Ouais.
D'accord.
Ouais, okay. Et le choix de se surclasser, ça, c'est un choix donc qui est effectué, j'imagine, avec toute l'équipe qu'il y a autour de toi, mais c'est possible donc de mettre en place, de dire voilà, moi je veux jouer dans la catégorie de ce handicap-là qui est plus considéré comme plus léger.
C'est vraiment spécifique au SL4, qui est... beaucoup de joueurs SL4 jouent en double homme SU5 en fait.
Mm-hmm.
Parce que le double homme SL3 SL4, donc les SL4 jouent avec un handicap lourd, enfin avec un joueur qui a un handicap lourd. Et les matchs sont quand même moins intéressants et il y a moins de jeux. En SU5, le niveau est beaucoup plus élevé et se rapproche beaucoup plus du valide. Et là, il y a de très beaux matchs et c'est ce qui me donne envie de participer, c'est d'essayer de prendre du plaisir sur le terrain et d'aller essayer de chercher ce championnat d'Europe.
Ça va te mettre en difficulté sur quel point ? Parce que du coup, c'est une compétition qui va être pour toi un peu plus difficile.
Ça va être difficile, oui et non, parce qu'en fait je joue beaucoup en valide.
Ouais.
Je suis dans le top 200 français en valide, je vais forcément avoir des appuis un peu moins puissants que les joueurs qui sont touchés uniquement au bras.
Mm-hmm.
Mais je suis très très confiant et j'espère pouvoir réussir cet objectif.
Donc on n'a plus qu'à te souhaiter bonne chance et plein de travail. Et a priori, ça a l'air, de pas trop de stress. C'est plus du...
Non. C'est du bon stress, en général.
Ouais.
Verdict fin octobre, début novembre à Rodez. C'est un championnat d'Europe, alors.
L'objectif de l'année, il l'a.
Ouais, c'est ça. Pour toi, le gros objectif de cette année, c'est les championnats d'Europe.
À Rodez.
À domicile, presque.
Ouais, presque.
Si tu as des choses à dire, à profiter pendant que tu es à la radio, il n'y a pas...
Oui, je tiens à remercier notamment la fondation FDJ pour son soutien et également la fondation Banque Populaire, qui sont deux mécènes très importants de mon projet sportif.
Donc un grand merci à eux. Moi j'ai une dernière question si tu n'as pas de...
Vas-y.
Du coup on est sur la rage. Pour toi la rage, ça évoque quoi ?
La rage, c'est un sentiment, c'est pour moi une force sur le terrain, de rentrer avec la rage et d'essayer de tout déchirer.
Bon, et ben voilà, on va dire que la rage est derrière toi et que on te souhaite plein de réussite encore pour les prochains matchs qui vont arriver. Et puis merci d'être venu.
Pas de souci, merci.
Merci
à vous.
Thomas d'avoir été aussi là pour animer cette émission avec moi.
Merci.
C'est un
avec
grand plaisir.
Plaisir.
Et à tous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine sur la rage. Ciao, bye bye.